Bonjour. Alors la première chose, il y a Richard Stallman qui nous a amené des stickers.
Des autocollants.
Des autocollants. On va les faire passer. Bon, je vais commencer. Donc, camarade centralien Supélec et nos invités, ici nous avons des chercheurs, des universitaires, des membres du gouvernement qui sont venus, nous avons aussi des lycéens. Donc nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes diverses, nous avons aussi des journalistes. Bienvenue à tous au face-à-face centralien Supélec. Et donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir, bon vous êtes là, Richard Stallman. Il faut savoir qu'il fait un détour spécial pour nous, puisqu'il était en Hollande, donc il vient nous voir.
Oh, Helsinki.
Helsinki.
Ça fonctionne.
Et donc il a pu concrétiser un certain nombre de rendez-vous aujourd'hui. Et grâce à sa venue, il y a Madame Axelle Lemaire qui aura le plaisir de le recevoir cet après-midi. Et tout ça grâce à notre camarade, hein, c'est Patrick Ayer qui a tout organisé. Vous pouvez le remercier. Donc je vais vous présenter rapidement le déroulé, comment ça va se passer, le face-à-face. Hein, donc c'est Richard Stallman, mais une première petite partie, c'est le baromètre centralien Supélec, c'est un baromètre, notre baromètre des dirigeants centraliens Supélec, sur comment on voit évoluer l'économie française aujourd'hui. Ça va prendre une petite minute hein, avant ensuite, je présenterai l'intervenant très brièvement. Hein, et on vous présentera aussi des réponses à un sondage qu'on a fait sur la relation entre les dirigeants centraliens Supélec et le logiciel libre, hein, voir quelle est leur relation avec le logiciel libre. Voilà. Donc voilà un petit peu après Richard Stallman, question-réponse à la fin. Voilà, très brièvement. Donc maintenant, je vais passer la parole à Pablo Santamaria de Comitel, qui va rapidement nous présenter le baromètre centralien Supélec. Voilà.
Comme on l'a été dit, il faut qu'il gagne un petit peu de temps. Pour assurer quand même Richard, le baromètre qu'on présente, c'est des serveurs qui tournent sur un temps calme, donc il y a un petit peu de libre là-dedans. Et donc on pose 4 questions pour essayer de suivre la confiance dans l'industrie qui sont quelle est ta confiance dans ton avenir personnel, toi en tant qu'ingénieur, première question. Secondement, l'évolution de ton entreprise dans le temps, l'industrie en France globalement, troisième point, et la France contre le reste du monde. Donc on a remis ici le petit graphique précédent, on voit qu'il y a un changement fondamental, il y a une grosse surprise qui se continue de vague en vague, et l'importance de la première barre du 57% de camarades qui dit ben, finalement je suis assez incertain sur mon avenir. Donc quand on prend ces questions et qu'on essaie de les traduire en indicateurs, j'ai toujours peur en ce moment quand on fait tourner une nouvelle vague, de dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va s'écouler ou pas, finalement ça ne va pas donner dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'en gros, le centralien résiste à la probabilité. On a même la surprise de voir l'évolution d'entreprise repasser un petit peu en tête, sans que ce soit des évolutions énormes, mais bon, ça ne s'écoule pas. On voit quand même que sur les indices de confiance, en tout cas, on est bien plus haut que quand on a commencé il y a un an. Voilà, donc très rapidement.
Merci Pablo. Donc je vais présenter brièvement Richard. Donc il est membre de l'Internet Hall of Fame, panthéon vivant de l'Internet. Richard Stallman a lancé le mouvement du logiciel libre, des logiciels libres en 1983 et le développement du système d'exploitation libre, GNU, l'ai-je bien prononcé, en 1984. Aujourd'hui, la combinaison... Aujourd'hui, la combinaison GNU/Linux est utilisée sur des dizaines de millions d'ordinateurs de par le monde, en lieu et place de Windows ou d'OS X. Il s'agit de logiciels libres que chaque utilisateur a le droit d'utiliser, copier, modifier et redistribuer. Richard Stallman a reçu de nombreux prix. Je vais en citer seulement quelques-uns. Le prix ACM Grasshopper, la prestigieuse bourse de la Fondation MacArthur, le prix pionnier de la Fondation Électronique Sans Frontières, le prix Takeda pour l'avancement économique et social dans le monde, de nombreux doctorats honoris causa, et enfin son titre de membre de l'Internet Hall of Fame. Voilà, maintenant, avant de prendre la parole, on a fait un petit sondage auprès des dirigeants centrales Supélec, hein, pour voir leur relation avec le logiciel libre en France. Donc on va voir, c'est intéressant pour voir un peu...
Alors, avant trois slides, il y avait une première question sur ton entreprise par rapport au logiciel libre, comment ça se passe. Donc on a une majorité significative à 58% qui dit oui, ma boîte tente de privilégier les logiciels libres. Par contre, derrière, quand on regarde ce qui se passe concrètement dans l'action, on développe très vite, puisqu'on voit qu'il n'y a que 38% des entreprises qui achètent des logiciels libres, 33% seulement qui en vendent, et puis on tombe même à moins de 20% quand il s'agit de participer à des événements. Donc ce n'est pas les entreprises du logiciel libre, hein, c'est des moins grosses entreprises en France vis-à-vis du logiciel libre. Alors, ce qu'il faut dire aussi, Richard, sur cette question, ce qu'on ne voit pas sur le graphique, c'est qu'il y a eu beaucoup de non-réponses à cette question. Ce qui veut dire qu'il y a plein de centraliens ou de Supélec qui ne savent même pas qu'est-ce que leur entreprise fait ou pas pour le logiciel libre. Donc ensuite, on avait une autre question sur qu'est-ce que tu fais, toi, enfin, quelle est ta position personnelle vis-à-vis du logiciel libre.
Donc là, tout doucement.
On a une barre, oui, sans doute. Donc là, on a une barre énorme de 96% des répondants qui disent oui, personnellement, je pense qu'il faut faire diffuser, qu'il faut se battre pour le logiciel libre. Bon, c'est aussi des gens qui, en parallèle, avaient décidé de s'inscrire à cette manifestation, donc quelque part, ils étaient quand même un petit peu concernés. Mais on tombe très très vite aussi, de manière encore plus brutale que sur l'entreprise, quand on décide de passer à l'action. C'est-à-dire que tout le monde dit, ben ouais, il faut y aller, mais il n'y en a que 10% qui participent à des événements ou des congrès dans le logiciel libre, ce qui n'est quand même pas beaucoup. Et moi, j'étais surpris qu'il y ait moins de participants, parce que finalement, c'est quand même plus facile de venir écouter Richard que de passer ses nuits à programmer pour le livre. Donc là, c'est l'inverse qui se passe. Et puis une question, une double question qu'on posait, quelles sont à ton avis les qualités les plus du logiciel libre et les moins des logiciels libres. Donc là on a des avis très tranchés, avec trois consensus très très forts sur l'ouverture de l'éditeur pour faire passer des nouvelles suggestions, le coût évidemment 95%, et il y a une utilité qui est encore à 83%. Et à l'inverse, il y a des mauvaises surprises entre guillemets du côté de la fiabilité. Alors bon, personnellement ça m'étonne un petit peu, mais c'est l'avis des sondés, avec seulement 21% qui le situe comme un plus et quand même 80%, pratiquement 79% qui le dénigre sur ce point-là. Les performances aussi et l'adéquation fonctionnelle qui sont sur lesquelles les avis sont plus. Donc voilà, très rapidement pour lancer un petit peu.
Merci Pablo. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous avez devant vous la personne dont l'astéroïde 9982 porte le nom, et grâce à qui l'astéroïde 9985 se nomme GNU. Ah, donc, tu peux y aller, et on termine à 10h. À 10h, on sort d'ici, normalement.
Donc, je dois commencer avec une conférence, puis des questions.
Oui.
Combien de temps pour la conférence initiale et combien de temps pour les questions?
Bon, on pourrait dire 40 minutes la conférence et 15-20 minutes les questions.
D'accord. D'abord, si vous faites des photos de moi, prêtez de ne pas les mettre dans Facebook. Facebook est un moteur de flicage. Il faut ne pas le faire. Donc les deux doivent fonctionner. D'accord. C'est du stéréo. Et quant aux enregistrements, il faut les diffuser uniquement dans les formats favorables au logiciel libre. C'est-à-dire les formats OGG, ou le format WebM. Pas dans les formats MP quoi que ce soit, surtout pas dans Flash, pas dans YouTube. Et avec la licence Creative Commons non dérivée, parce que c'est une présentation de mon point de vue. Que signifie donc le logiciel libre? Je peux présenter le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire les choses que Sarkozy déteste. Liberté parce que chaque utilisateur est libre d'utiliser, de changer et d'adapter le programme en solitude ou en combinaison avec les autres. Égalité parce que à travers le logiciel libre, personne ne soumet à personne. Personne n'a de pouvoir sur personne à travers un programme libre. Et fraternité parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. C'est donc la manière éthique et juste de distribuer un programme. Parce qu'il s'agit de la manière de distribution du programme, pas du code. Ce n'est pas une question technique. Il ne s'agit pas des fonctionnalités du programme, ni de comment il marche, ni de comment ils ont écrit le code. Ce sont des questions techniques, des choses à part. C'est une question de respecter ou ne pas respecter les droits de l'homme des utilisateurs. N'importe quel programme peut être distribué comme du logiciel libre ou comme du logiciel privateur, c'est-à-dire qui prive aux utilisateurs de leurs droits de l'homme. Et parfois, le même code se distribue de deux manières en même temps. C'est une question éthique, sociale et politique, pas technique. Donc n'importe qui peut la comprendre. Pas besoin d'être programmeur, d'être un informaticien. Donc, si un programme n'est pas libre, nous l'appelons privateur parce qu'il génère un système de pouvoir injuste du propriétaire du programme sur les utilisateurs du programme. C'est un joug. C'est une injustice. Un programme, le logiciel privateur ne doit pas exister. Et son existence est un problème social qu'il faut corriger. Donc j'ai essayé de remplacer les programmes privateurs très utilisés et essentiels par des remplacements libres pour libérer les utilisateurs. L'avancement éthique est plus important que l'avancement technique. Notre société fait trop d'emphase sur l'innovation technique. Les innovations peuvent être bonnes ou mauvaises, selon les détails. La démocratie, une fois, était une innovation. La tyrannie était une fois une innovation. Si tu choisis dans ta vie les innovations à utiliser, nous pouvons supposer que tu choisisses les innovations commodes et bonnes et pas les mauvaises. Mais aujourd'hui, ce sont les entreprises qui décident les combinaisons d'innovations à offrir aux gens. Donc, le choix des innovations à utiliser n'est pas libre pour les utilisateurs. Si on accepte cette fonctionnalité commode, il faut accepter le flicage, le pouvoir, l'injustice, n'importe quoi, que l'entreprise a décidé de lier avec la fonctionnalité commode. Moi, je juge que les questions éthiques sont les plus importantes, donc je rejette les fonctionnalités commodes liées avec l'injustice, le flicage, etc. Le pouvoir injuste d'un programme privateur. Et je les rejette. Il faut les rejeter. Il faut exiger que les programmes que nous utilisons soient libres. Mais en le pratique, que signifie, quels sont les critères pour un programme libre? Pour qu'un programme soit libre, il faut que les utilisateurs aient le contrôle du programme. Ce qui requiert les quatre libertés essentielles. La liberté zéro est celle d'exécuter le programme comme tu veux, pour n'importe quel but. Il y a beaucoup de programmes privateurs qui n'autorisent pas l'exécution comme tu veux. Il y a aussi la liberté numéro 1 qui est celle d'étudier le code source du programme et de le changer de manière que le programme fonctionne pour toi comme tu veux et fasse ton informatique comme tu veux. Avec ces deux libertés, chaque utilisateur a le contrôle séparé du programme. Mais le contrôle séparé ne suffit pas parce que la grande majorité des utilisateurs ne savent pas programmer. Ils ne savent pas exercer la liberté numéro 1. Donc, donner uniquement les deux premières libertés essentielles, l'utilisateur pas informaticien n'a pas vraiment du contrôle. Mais même pour un programmeur comme moi, le contrôle séparé ne suffit pas. N'importe qui sait étudier le code source des milliers de programmes qu'il utilise, ni écrire seul tous les changements qu'il désire. Il faut aussi le contrôle collectif du programme qui requiert deux autres libertés essentielles. La liberté numéro 2 est celle de faire des copies exactes du programme pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Et la liberté 3 est celle de faire des copies de tes versions modifiées pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Avec ces deux libertés, les membres de n'importe quel groupe sont libres de collaborer dans l'adaptation au programme à leurs besoins ou à leurs désirs, et d'offrir aussi leur version au public ou à quelqu'un quand ils veulent. Donc, quand le programme porte les quatre libertés essentielles, les utilisateurs ont le contrôle du programme. C'est la manière éthique de distribuer un programme, la manière qui n'impose pas le pouvoir injuste d'un propriétaire aux utilisateurs du code. Mais si une des libertés essentielles manque ou est insuffisante, les utilisateurs n'ont pas le contrôle du programme, donc c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs et le propriétaire qui a le contrôle du programme. Donc ce programme est un joug pour le pouvoir du propriétaire sur les utilisateurs. Voici le pouvoir injuste. Un programme privateur est un instrument du pouvoir injuste. Et normalement, il les développe pour gagner du pouvoir injuste sur quelqu'un. Il faut ne pas le faire. Donc, quand les autres disent « Ah, je préfère le logiciel libre pour épargner, pour faire des économies », je trouve qu'ils ne comprennent pas vraiment la question. Ils ne font pas attention aux droits de l'homme. Et celui qui ne valorise pas les droits de l'homme les perd. Pour garder la liberté, il faut la défendre. Il faut être prêt à lutter. Il faut parfois être prêt à faire des sacrifices. Heureusement pour nous, dans ce sens-ci, il ne s'agit pas de grands sacrifices. Des petits sacrifices suffisent. Mais aujourd'hui, avec l'injustice du logiciel privateur, d'habitude va autre injustice, l'injustice du malware. Malware signifie un programme écrit pour maltraiter les utilisateurs. Que font, et souvent on parle du malware en visant uniquement les virus. Et qu'est-ce que c'est que la différence entre le virus et la virus? Je ne pouvais pas résister. Mais en vérité, des produits logiciels peuvent être également malware. Et aujourd'hui, c'est commun. C'est le cas normal chez les programmes privateurs d'être malware, de contenir des fonctionnalités malveillantes. Et qu'est-ce qu'elles font? Il y a les fonctionnalités de flicage, il y a des fonctionnalités de restreindre l'utilisateur pour qu'il ne puisse pas faire les choses qu'évidemment tous les utilisateurs veulent faire. Il y a aussi des portes dérobées pour envoyer des commandes cachées au programme pour faire des choses à l'utilisateur qu'il ne veut pas. Et aussi, il y a la censure. Des systèmes privateurs actuels sont développés pour imposer la censure aux utilisateurs. Et pour les fonctionnalités de restreindre l'utilisateur s'appellent aussi les menottes numériques. Aussi en anglais DRM, Digital Restrictions Management. Et tous sont très répandus. Presque tous les utilisateurs du logiciel privateur sont déjà des victimes du malware privateur. Et pour le démontrer, il suffit de présenter une liste d'exemples. Un paquet privateur qui fait tous les quatre formes du malveillant, que tu connais peut-être de nom, s'appelle Microsoft Windows. La censure est une fonctionnalité nouvelle dans la version 8 pour les ordinateurs mobiles. Donc Windows est malware, littéralement. D'habitude, les informaticiens le disaient comme exagération. Mais maintenant, c'est vrai littéralement. Mais aussi, il faut noter qu'une des portes dérobées dans Windows est universelle. C'est-à-dire que, à travers de cette porte dérobée, Microsoft a le pouvoir d'imposer des changements de logiciel. N'importe quel changement, Microsoft peut imposer à distance, à n'importe quel moment. Donc, n'importe quelle fonctionnalité malveillante qui n'est pas présente dans Windows aujourd'hui peut être installée par force demain. Windows est donc malware universel. MacOS est malware. Il a des menottes numériques et ils ont découvert des fonctionnalités de flicage. Depuis un an, il paraît, MacOS transmet des fichiers à un serveur Apple sans informer l'utilisateur, de manière que des pirates peuvent trouver des photos, etc. Et peut-être aussi les employés d'Apple peuvent le faire plus facilement. Le système des iThings les monstres mobiles d'Apple et beaucoup pire. Beaucoup de fonctionnalités de flicage, des menottes numériques, une porte dérobée pour supprimer des applications déjà installées et la censure. Apple était le pionnier dans l'imposition de la censure des applications. Et quand les utilisateurs ont trouvé des manières de contourner la censure, ils l'appelaient jailbreak, ce qui veut dire s'échapper du prison. Ce qui reconnaît que ces ordinateurs sont construits comme des prisons pour l'utilisateur. Android contient des composants libres, mais aussi des composants privateurs, y compris Google Play, le composant pour accéder aux services de Google, à la boutique d'applications de Google. C'est privateur et contient une porte dérobée universelle, donc capable de faire n'importe quel mal à l'utilisateur. Flash Player est malware. Il a des menottes numériques et une fonctionnalité de flicage pour les sites web. Flash Player est gratuit, mais pas libre. C'est donc un exemple illustratif pour démontrer que ce qui compte est la liberté et pas la gratuité. La gratuité de Flash Player signifie qu'Adobe n'exige pas que l'utilisateur paye pour être maltraité. Angry Birds est malware. Il transmet des données de géolocalisation aux entreprises. Le logiciel du swindle d'Amazon est malware. Le swindle d'Amazon et son lecteur de livres numériques, swindle n'est pas son nom officiel. Swindle signifie escroquerie. Et c'est le nom approprié de ce produit parce qu'il il fait l'escroquerie des libertés traditionnelles des lecteurs. Par exemple, la liberté d'acquérir un livre à l'anonymat, payant en liquide, impossible chez Amazon. Amazon exige que l'utilisateur s'identifie et gère une grande base de données avec tous les livres que chaque utilisateur a lus. Il faut ne pas tolérer l'existence d'une telle base de données. Vendre des livres et garder les noms des livres que chacun a acheté doit être illégal pour protéger les droits de l'homme. Mais le flicage du swindle est va beaucoup plus loin parce qu'il transmet à Amazon le nom et la page de ce que le lecteur lit maintenant. Aussi, si le lecteur tape des notes, les notes sont transmises à Amazon. Aussi, il y a la liberté de donner le livre en cadeau à un ami après le lire, ou de le prêter aux gens de temps en temps, ou de le vendre, éliminé par Amazon, par les menottes numériques et par les contrats injustes qu'Amazon impose, qui ne respecte pas la propriété privée. Amazon dit « Tous les livres nous appartiennent. » À Amazon, c'est-à-dire. C'est plus radical que l'Union soviétique. Il y a aussi la liberté de garder le livre tant que tu veux, qu'Amazon élimine par une porte dérobée pour effacer les livres à distance. nous savons de cette porte dérobée par l'observation. En 2009, Amazon a supprimé des milliers d'exemplaires d'un livre dans un acte orwellien. Et le livre était 1984 de George Orwell. Suite à beaucoup de critiques, Amazon a prometté de ne plus le faire sauf sous ordre de l'État. Une promesse pas très réconfortante si tu as lu 1984. Mais pas besoin de te préoccuper parce que Amazon ne tient pas à sa promesse. Mais en vérité, le logiciel du Swindleport contient une porte dérobée universelle qui s'appelle la mise à jour automatique irrésistible. Donc, Amazon peut faire n'importe quel mal à l'utilisateur du Swindle. Le nom officiel du produit est Kindle. Kindle signifie incendier. Peut-être pour nous suggérer que le vrai but du produit est de brûler les livres virtuellement aux gens. Mais pas à moi, parce que je n'utiliserai jamais de tel produit. Et la dernière exemple est celui de presque tous les téléphones portables, qui sont des ordinateurs qui tourne du logiciel. Et bien que l'utilisateur, dans beaucoup de cas, ne peut pas changer le logiciel, une entreprise peut le changer, peut le remplacer. Même dans les téléphones qui ne s'appellent pas smart, il y a du logiciel qu'une entreprise peut changer à distance. Il y a une fonctionnalité de flicage. C'est-à-dire que le téléphone transmet sa géolocalisation sous commande et l'utilisateur ne peut pas le bloquer. Mais aussi, il y a la porte dérobée universelle d'imposer des changements de logiciel, n'importe quel changement de logiciel à distance. Et cette porte dérobée a été employée pour convertir des téléphones en dispositifs d'écoute, qui écoutent toute la conversation, tout le temps, et la transmet, que ce soit activé ou arrêté. Parce qu'en vérité, avec ce changement, le téléphone ne s'arrête pas. Il fait semblant de s'arrêter pendant qu'il continue d'écouter et de transmettre. La seule manière de l'empêcher est de lui ôter toutes les batteries. Pas seulement la grande batterie. Il faut ôter toutes les batteries. Enlever toutes les batteries. Y compris les batteries qui ne s'enlèvent pas. Donc, c'est pour, à cause de ces deux fonctionnalités malveillantes, j'appelle les téléphones portables la rêve de Staline. Et je refuse d'en porter un. Je refuse de porter toujours un dispositif qui dit à Big Brother où je vais et ce que je dis. C'est une injustice, c'est tyrannique, il faut le rejeter. Et moi, je fais mon devoir. Je vois que les téléphones portables sont très commodes, mais il y a des choses si mauvaises qu'il faut ne pas les accepter. Bon, voici pourquoi le logiciel privateur et injuste de deux manières. Injuste de deux manières. La manière de distribution soumet l'utilisateur au pouvoir injuste du propriétaire, et puis le propriétaire ressent toujours la tentation d'introduire, de profiter de son pouvoir injuste en imposant aux utilisateurs des fonctionnalités malveillantes. Et la coutume actuelle est de céder à cette tentation. Les standards éthiques du champ informatique sont nuls. Ce n'était pas comme ça il y a 30 ans. Il y a 30 ans, le logiciel privateur était injuste, mais au moins, les développeurs étaient normalement étaient honnêtes. Normalement, on ne trouvait les programmes privateurs ne contenaient pas des fonctionnalités malveillantes. Aujourd'hui, leur présence est normale. Il faut s'attendre à la présence des fonctionnalités malveillantes dans un produit privateur. Donc les deux injustices vont normalement ensemble. Le logiciel privateur, c'est une question de la manière de distribution du programme, pas de son code. Le malware est une question de son code, de que fait le code. Donc, en principe, complètement indépendant. Mais en pratique, les deux injustices vont ensemble. Il faut donc rejeter le logiciel privateur, il faut l'éliminer. D'abord, nous devons nous échapper du logiciel privateur. Et c'est pour ça que nous avons construit le système d'exploitation GNU, pour avoir un lieu où nous échapper. Donc nous avons bâti le monde libre dans l'informatique. Dans mon ordinateur, je n'ai pas de logiciel privateur. Le système est libre, le BIOS est libre, les applications sont libres, les drivers sont libres. Il n'y a pas de... Et le système, dans mon système, je n'ai installé aucun firmware privateur. C'est libre à tout niveau. C'est pour ça que nous avons lutté. Mais vraiment, le but est la libération du monde informatique. Pas seulement de quelques-uns. Tout utilisateur mérite les droits de l'homme. Mais il y a beaucoup de pression sociale. Les entreprises savent gérer l'effet du réseau. Ils savent recruter des utilisateurs pour pressionner les autres utilisateurs. Les membres de la famille disent prière de communiquer avec moi par Skype. C'est un programme privateur avec des fonctionnalités malveillantes. Il faut le refuser. Surtout Skype. Parce que si tu utilises Skype, tu pressionnes à quelqu'un d'autre à utiliser Skype. C'est pour ça donc que je refuse de l'utiliser. Il faut refuser les services de streaming qui impose un client privateur avec des menottes numériques et du flicage qui t'empêche d'avoir une copie. Si tu n'as pas de copie de l'œuvre, tu ne peux pas le prêter aux autres, tu ne peux pas le partager avec les autres. C'est-à-dire, tu deviens mauvais. Les utilisateurs de Spotify et de Netflix sont des mauvais gens. L'utilisation de ces programmes rend les gens mauvais. Il faut le refuser. Enfin, quelle autre chose ? Il y a une pratique équivalente à l'utilisation d'un programme privateur, c'est-à-dire de confier ton informatique au serveur d'un autre. Maintenant, il y a des services qui offrent de faire ton informatique à toi, ou l'informatique de ton entreprise, dans le serveur de notre. Et en le faisant, tu perds, ou l'entreprise perd, le contrôle de cette informatique. C'est donc la même injustice que celle d'un programme privateur. Il faut le refuser. Mais c'est encore pire, parce que pour utiliser ce service, il faut lui transmettre toutes les données pertinentes au commencement. Comme ça, c'est du flicage. Le serveur accumule les données des utilisateurs. Mais c'est encore pire. J'ai expliqué que beaucoup de produits privateurs contiennent des portes dérobées universelles pour imposer des changements de logiciel, c'est-à-dire pour changer comment se fait l'informatique de l'utilisateur sans lui demander l'autorisation de le changer. Avec ces services, le propriétaire du serveur peut à n'importe quel moment changer le logiciel, c'est-à-dire remplacer les programmes par d'autres programmes ou ajouter d'autres programmes pour faire autre chose. Et il doit pouvoir le faire, c'est son ordinateur à lui. Il doit avoir le droit de changer le logiciel dans le serveur, mais quand il le fait, il change comment se fait l'informatique de l'utilisateur sans lui demander l'autorisation de le changer. Donc, le logiciel qui tourne dans le serveur d'un autre est l'équivalent d'un programme privateur qui fait du flicage et contient une porte dérobée universelle, c'est-à-dire du malware privateur. Il faut donc refuser de confier ton informatique au serveur d'un autre. Peut-être si c'est ton ami, tu peux le lui confier. Mais une entreprise, bien sûr que non. Que fera l'entreprise pour protéger ta vie privée contre l'État ou contre l'NSA? Donc c'est l'équivalent. Beaucoup de sites web transmettent des programmes aux visiteurs. Ces programmes sont écrits normalement dans le langage JavaScript, mais c'est un détail technique. Le point important, c'est que ces programmes peuvent être libres ou privateurs, mais la plupart sont privateurs. Pour ne pas et quelques-uns sont malware, ils font du flicage. Donc, pour ne pas exécuter les programmes privateurs, il faut utiliser notre programme LibreJS. C'est une adjonction à Firefox qui analyse les programmes JavaScript qui essaient de s'installer dans ton navigateur pour voir s'ils sont ou triviaux ou libres. Et dans ces deux cas, il les permet de s'exécuter. Mais dans le cas où le programme n'est ni trivial ni libre, LibreJS le bloque et t'avertit dans l'écran. Cette page contient du code JavaScript privateur et cherche aussi dans les pages des adresses ou numéros possibles pour te plaindre à la gestion du site. L'étape la plus difficile de te plaindre à la gestion, c'est de trouver comment et où. LibreJS le fait pour toi. Pour faciliter l'envoi des plaintes, c'est très important d'envoyer les plaintes. Enfin, Il faut, dans ton site web, dans le site web d'une entreprise, il faut mettre des licences libres sur les programmes JavaScript. Ou mieux encore, il faut que le site fonctionne sans exécuter le code JavaScript. Il faut faire attention à rendre possible l'utilisation du site sans exécuter localement des programmes envoyés par des autres, parce que c'est une pratique dangereuse. Il y a pas seulement le flicage, mais aussi les programmes JavaScript d'attaque à l'utilisateur pour prendre d'autres informations privées. Enfin, aux enchères. Voici un petit gnou adorable qui a besoin d'une famille, donc je vais le vendre aux enchères maintenant. Si tu achètes le gnou, je peux dédicacer cette carte. Si tu as un manchot chez toi, le manchot a besoin de gnou. Comme nous savons, le manchot ne peut guère fonctionner sans gnou. Nous pouvons accepter paiement en liquide ou par carte bancaire si elle peut faire des achats par téléphone, des achats internationaux par téléphone et par Bitcoin si tu as une machine avec laquelle faire ici le paiement. Quand tu offres près de agiter la main et de crier le prix que tu en chéris, parce que je suis dur d'oreille. Il faut vraiment crier. Et je commence par le prix normal de 20 euros. Est-ce que j'ai 20 euros? C'est pour la fondation de logiciels libres. 50, est-ce que j'ai 100, est-ce que j'ai 110, 110, est-ce que j'ai 120, est-ce que j'ai 120 euros pour ce petit gnou adorable, est-ce que j'ai 120 à l'FSF pour lutter pour la liberté, 120, j'ai 130, est-ce que j'ai 140, est-ce que j'ai 140 pour les droits de l'homme dans l'information? Combien? 150. J'ai 150. Est-ce que j'ai 160? J'ai 160. Est-ce que j'ai 170? 170. Est-ce que vous en chérissez? J'ai 160. Est-ce que j'ai 170? 180. J'ai 180. Est-ce que j'ai 190? Est-ce que j'ai 190? 190, quelqu'un pour ce petit gnou adorable? 190 pour protéger les droits de l'homme? 190, quelqu'un? 190, dernière opportunité? 190, j'ai 190. Non, non, non. Au moins 10. Oh, il faut... J'ai 200. Est-ce que j'ai 220? Je crois que il faut économiser du temps. Est-ce que j'ai 220? 220 pour ce petit gnou adorable. 220 pour protéger les droits de l'homme. Dernière opportunité. Dernière opportunité pour offrir 220 ou plus. 220 ou plus. 1, 2, 3. Vendu pour 200. Maintenant, j'accepte les questions. Il faut répéter qu'il y a des autocollants disponibles à prendre.
Ils ont tous été pris.
Oh, il reste quelques peu. Tous sont à prendre pour être utilisés. pour d'informations davantage, nous avons des sites web. Il y a gnu.org, c'est gnu.org. Il y a aussi fsf.org. Il y a aussi, il y a quelques-uns de plus, les autocollants iBed. C'est dommage, j'en ai plus au logement, mais pas ici. De toute manière, il y a aussi fsf.org, le site de la Free Software Foundation. Il y a aussi fsfe.org, Free Software Foundation Europe. Et maintenant aux questions. Est-ce qu'ils doivent utiliser un micro?
Oui, il y a un micro.
Oh, mais je propose de faire... faire une queue. Ici. Pour ne pas transporter le micro à travers la salle, je propose de garder ici le micro et que tous les gens qui veulent poser des questions font la queue ici. C'est plus efficace et plus juste. Alors, si tu entres dans la queue, tu auras ton opportunité de poser la question.
Bonjour, monsieur Salman. Merci pour cette présentation magnifique. Moi, je voulais vous poser une question justement par rapport...
Brièvement, s'il te
plaît. Par rapport à Firefox qui a décidé d'implémenter les DRM.
Brièvement.
Ok, pourquoi...
Direct à la question.
Que pensez-vous du fait que Mozilla, la fondation Mozilla, implémente les DRM dans Firefox?
C'était horrible. Ils avaient le devoir de défendre la liberté. Ils ont cédé à l'ennemi. Ils ont rendu un point fort. Mais il faut toujours lutter. Nous ne nous rendrons jamais à la DRM. Mais ceux de Mozilla ne disent pas logiciel libre. Ils ne parlent pas de la liberté. Ils disent open source. Que signifie open source? C'est une manière de parler des programmes libres sans mentionner les questions éthiques. C'est une manière d'éviter les questions profondes. Et de mettre l'emphase uniquement sur des questions pratiques. Donc, c'est une philosophie faible.
Bonjour. Vous n'avez pas du tout parlé du logiciel en fuite. C'est-à-dire, maintenant, on va être dans les voitures, on va être dans les box, on va être sur Internet, etc. Et donc, c'est un point effectivement, il y a une possibilité de flicage énorme.
Oui, bien sûr.
Et
aussi, si un produit contient un programme et le programme n'est pas changé, l'utilisateur ne peut pas savoir si le produit contient un programme ou pas. En ce cas, pas besoin d'y faire attention. Mais si le programme est fait pour être changé, voici un ordinateur qui tourne un logiciel. Donc il faut y faire attention, il faut que ce programme soit libre. Donc il y a deux choix éthiques. Les programmes enrobés dans un produit, les programmes qui ne sont... Les programmes, mais ne pas conçus pour être changés. Qu'on peut traiter comme du support physique. Et les programmes conçus pour être changés, qu'il faut traiter de logiciels. qui doivent être libres.
Et c'est pas toujours facile de savoir pour cacher une voiture.
Oui, mais si le fabricant pense changer le logiciel, vous devez pouvoir changer le logiciel. Si le fabricant ne pense pas changer ce logiciel, il peut, c'est-à-dire que le fabricant le traite comme du support physique. Et toutes les questions éthiques sont égales aux questions pour le support physique. Parce que le support physique peut aussi être malveillant. C'est normal, dans les PC normaux actuels, il y a du support physique malveillant. Il y a une fonctionnalité d'encryptation du vidéo entre le processeur et l'écran. Seulement pour restreindre l'utilisateur, il s'appelle HDCP, du hardware malveillant. Il y a d'autres aussi. Je n'entends pas les mots que vous dites. Je suis dur d'oreille. Mon problème est de reconnaître les consonnes.
Pardon. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus regarder la télévision pratiquement en HD, sans prise HD, sans câble HDMI qui contient HDCP.
Oui, c'est injuste. Je n'ai pas de câble. Mais les programmes, pour la plupart, sont des ordures. Prochaine. Non, il n'y a pas de temps. C'est dommage, je voudrais bien répondre à plus de questions, mais il n'y a pas de temps.
Tu peux te remettre dans la queue.
Pensez-vous qu'il y a un avenir pour le langage Python?
Je ne sais pas. Je ne l'utilise pas, mais ce n'est pas une critique. Donc, prochaine question.
Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure du streaming.
Je n'entends pas.
Vous avez parlé tout à l'heure du streaming.
Oui. Les services de streaming. Le streaming en soi n'est pas mauvais. On peut faire du streaming d'une vidéo avec du logiciel libre de manière que les spectateurs peuvent le regarder avec du logiciel libre. Pourquoi pas? Mais les services comme Spotify et Netflix sont des injustices.
Et donc, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'il y ait de la privation, puisqu'il y a derrière le fichier...
Il y a des quoi?
De la privation. Vous parlez tout à l'heure de privation. Est-ce que vous pensez que
c'est normal? Je n'entends pas les consonnes.
De la privation.
Privation de quoi?
Eh bien, des fichiers. Est-ce que vous parlez que c'est pas normal qu'on ne peut pas obtenir une copie?
Oui.
Est-ce que vous pensez que c'est plutôt normal pour obtenir une copie? Parce que derrière ce fichier, il y a des milliers de gens qui ont travaillé et qui ont...
Ça ne change rien. La liberté de partager est essentielle. Il faut éliminer n'importe quelle loi, n'importe quel système visé à empêcher le partage entre les gens. Et il faut rejeter le logiciel privateur. Uniquement le logiciel privateur, qui est toujours injuste, est capable d'imposer l'interdiction aux utilisateurs. C'est par celui qui veut nous interdire par des moyens techniques, a besoin d'exercer du pouvoir sur nous. Donc uniquement un programme privateur peut lui servir. Un programme que nous pouvons changer ne sert pas pour nous interdire. Donc, ceux qui veulent nous imposer des injustices à travers du logiciel doivent utiliser le logiciel privateur qui est autre injustice. Mais pourquoi est-ce qu'il faut pour être libre de partager? Parce que partager est bon, c'est la conduite amis, mais aussi partager avec le public, même avec les inconnus, est très très utile. Donc il faut ne pas les interdire. Il y a d'autres manières plus justes de financer les artistes. Le système du droit d'auteur actuel finance plutôt les entreprises qui maltraitent d'habitude les artistes, sauf les stars. Ils traitent très bien les stars comme des exemples. Et ils présentent les stars qui disent « Donnez-nous plus que pouvoir du droit d'auteur » pendant que les mêmes entreprises font mal aux autres artistes moins connus, pas célèbres. Donc, je rejette complètement l'idée d'interdire le partage, et en tout cas, je n'accepterai jamais un programme privateur. Donc, s'ils utilisent des programmes privateurs pour la distribution des œuvres, je ne les accepterai pas dans mon ordinateur, et donc, les copies que j'aurai seront des copies que je peut avoir sans exécuter ces programmes. Les œuvres que je regarderai seront les œuvres disponibles sans exécuter les programmes privateurs. J'achète des disques au magasin, mais je n'écouterai rien par Spotify, même pas dans l'ordinateur d'un autre. J'ai refusé il y a deux jours, quelqu'un voulait me montrer un morceau par Spotify. Je lui ai dit non. Je refuse d'utiliser Spotify, même par l'ordinateur d'un autre. Une amie m'a invité à regarder avec elle un film par Netflix. J'aurais fait dans un disque DVD, dans sa machine, parce que moi, je n'ai pas le programme interdit pour désencrypter le vidéo d'un DVD. Mais si elle l'avait dans son ordinateur, je ne refusais pas. Mais par Netflix, non. Parce que le problème des menottes numériques de streaming, c'est que nous ne pouvons pas envisager de la rompre techniquement, parce que j'ai le pouvoir de le remplacer à n'importe quel moment. Dans 5 minutes, ils peuvent imposer un autre système d'encryptation. Et donc, rompre l'encryptation ne sert à rien. Donc, pour nous libérer, il faut rejeter les services de streaming.
La question porte sur les entreprises, la manière dont les informaticiens peuvent gagner leur vie.
Ils ont déjà leur vie.
Oui,
On ne gagne pas la vie. Je rejette cette...
Non. Cette...
Gagner de l'argent, oui. D'abord, il y a quelque chose de très important. Gagner de l'argent n'est pas mauvais en soi. Le désir de gagner de l'argent n'est pas injuste en soi, mais ne justifie pas, je cherche la liste que j'ai écrite. J'ai écrit une liste de manière, mais le désir de gagner de l'argent ne justifie de maltraiter les autres. Donc, on ne peut pas justifier le développement des programmes privateurs pour le désir de gagner de l'argent. Où est-ce que j'ai mis ce fichier? Ah, voici. Si tu ne sais pas gagner de l'argent en développant du logiciel libre, ça n'excuse pas le développement d'un programme privateur. Le développement d'un programme privateur est l'essai de soumettre des autres. Il faut ne pas le faire. Entre développer du logiciel privateur et ne rien faire, il faut ne rien faire. Mais il y a des manières de gagner de l'argent à travers du logiciel libre, et pourquoi pas. Voici les modèles que j'ai trouvés. Parfois, on peut faire de la publicité à travers ou avec des programmes libres. Parfois, le programme libre sert à d'autres négociations. Par exemple, Google et Oracle développent des programmes libres très utiles. Il leur convient que ces programmes soient disponibles. Il y a aussi le modèle de crowdfunding. On peut solliciter de l'argent pour faire le travail. C'est complètement bon. Il y a la vente des services associés à l'utilisation du programme. C'est aussi bon. Je le faisais pour plusieurs années, dans les années 80, avant de recevoir la bourse MacArthur. J'aurais continué. Il y a la vente des copies certifiées. Donc, le code source est libre, on peut redistribuer le code source, on peut redistribuer même les exécutables. Mais pour avoir une copie certifiée, il faut le recevoir de l'entreprise et payer. L'entreprise qui développe le compilateur ADA de GNU fonctionne comme ça. Il y a aussi la pratique de développer des solutions spécifiques sur mesure, mais en utilisant quelques programmes libres généraux et en les développant généralement en même temps. Il y a aussi beaucoup de fonds gouvernementaux pour le développement de logiciels. Les États devraient exiger que le résultat soit libre. Il y a le développement des solutions informatiques pour les agences publiques. Il y a aussi le but de créer un standard pour qu'une interface devienne le standard. Il est très utile de publier une implémentation. Il y a aussi les développeurs qui gagnent assez d'argent par des donations des utilisateurs. Par exemple, le développeur d'un programme Lilypond, c'est un paquet GNU pour éditer des partitions. Pas très utile aux entreprises, mais il reçoit assez de donations des utilisateurs. Si un programme si obscur est utile uniquement aux individus, peut recueillir assez de donations, c'est évidemment pas trop difficile. Donc, c'est bien possible. Mais, surtout, il faut ne pas développer de ce privateur. S'il y a du temps.
Ma question est un peu compliquée.
Je n'entends pas les consonnes.
Bonjour. Vous n'avez pas trop parlé du réseau, de la neutralité, de la publicité, etc.
Brièvement, s'il vous plaît.
Est-ce que vous utilisez des choses comme Tor, en réseau?
Oui, j'utilise Tor. Mais je ne voudrais pas dire que j'ai Tor.
Par rapport à la neutralité du réseau,
je n'entends pas.
Par rapport à la neutralité du réseau,
je suis pour. Mais aussi, il faut éliminer le flicage général. Les États doivent pouvoir investiguer quelques-uns sous ordre du tribunal, mais le flicage général doit être éliminé. Les systèmes doivent être. Il faut des lois pour exiger que les systèmes numériques soient développés pour ne pas accumuler des données sur les gens, sauf dans le cas où il y a un ordre du tribunal visé à quelques-uns. Prochaine question.
Bonjour. Si les logiciels libres sont plus intéressants à tous les niveaux, pourquoi les entreprises utilisent des logiciels qui l'attendent?
Je ne dis pas plus intéressant à tous les niveaux. Je dis que le logiciel libre est éthique et le logiciel privateur soumet ses utilisateurs. Donc c'est injuste. Mais évidemment, il y a des fonctionnalités commodes offertes pas uniquement par des programmes privateurs. Donc une tentation pour céder les droits de l'homme, une invitation aux entreprises pour céder le contrôle de leur propre informatique. C'est fou de l'accepter, mais il y a beaucoup de fous. Il y a beaucoup qui pensent au court terme, qui pensent uniquement au superficiel. Il y a aussi l'effet, en anglais, network effect. Je ne sais pas si ça se traduit littéralement. Effet réseau. Si les autres l'utilisent, il est commode de l'utiliser. Donc, si beaucoup utilisent un système privateur, il est plus commode d'utiliser le même système. Mais moi, si les autres se penchent sur un... j'ai oublié le mot, cliff, comment dit-on cliff? Si les autres se penchent par une falaise, moi je ne les suis pas. Mais il y a aussi le problème que beaucoup d'écoles enseignent le logiciel privateur. Les écoles ne doivent jamais enseigner un programme privateur parce que c'est de semer la dépendance envers quelqu'un. Ça va à l'encontre de la mission sociale de l'école. Et généralement, c'est l'inertie sociale qui continue le développement et l'utilisation du logiciel privateur, mais aussi si quelqu'un obtient un grand investissement, il peut développer un programme très commode, mais injuste.
Merci. Dernière question.
Comment faire pour empêcher les gens d'utiliser le logiciel libre dans des buts privateurs?
Dans des quoi privateurs?
Des objectifs privateurs.
On ne peut pas. On ne peut pas utiliser les licences des logiciels pour restreindre la conduite des utilisateurs. Si je fabrique des stylos, je ne peux pas éviter que mes stylos soient utilisés pour faire des mauvaises choses, comme de la fraude, comme pour écrire la liste de personnes à mettre en prison sans procès, à torturer. Si je vendais des stylos aux États-Unis, ils pourraient être utilisés ainsi. Mais je ne peux pas l'éviter en mettant des licences d'utilisation sur les stylos.
Merci beaucoup. Je tiens à remettre un petit cadeau à Richard. C'est un cadeau de nos associations centrales Supélec. Alors c'est un cadeau qui ne porte pas de logo. Pas de logo. Il ne veut pas. Mais il y a un petit dessin, c'est pas une astéroïde. Hein, c'est pas un astéroïde, c'est une étoile. Voilà.
Je ne prends pas d'astéroïde. Merci.
Oui, peut-être le prochain face-à-face, on aura le plaisir d'accueillir un ingénieur et un ambassadeur. C'est le seul qu'on ait en France, le seul ambassadeur. qui est ambassadeur au Moyen-Orient, et qui est de notre école, Central Supélec. Et donc, il viendra nous parler de comment aider au mieux les entreprises au Moyen-Orient en étant ambassadeur et ingénieur. Voilà, ce sera le 8 décembre. À bientôt, merci beaucoup.
Ce matin, j'ai inventé un calembour. J'achète uniquement les thés qui ne se dégradent pas parce qu'ils sont détestables. Quoi? Je n'entends pas, je suis deux oreilles.
Michel
quoi? Ah, je me souviens du nom, mais de où je me souviens?
En 1984.
Et je garde le papier. Je vais vous mettre aussi un numéro ou une adresse de papier. Il faut aussi des photos de sécurité parce que ça sera comme un achat téléphonique.
Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas si on a dit tout ça.
Nous ne pouvons pas le faire, nous sommes aux États-Unis.
Richard, est-ce que ça vous a amusé cet échange avec les Centraléens?
Oui.
Pourquoi?
Je ne sais pas. Pour moi, faire des conférences est un plaisir.
Il n'y a pas de différence entre un public d'ingénieurs et un...
Non. Parce que les questions ne sont pas techniques. Je ne traite jamais des sujets techniques dans mes conférences.
Donc c'est de la philosophie.
Bien sûr.
J'ai une autre question.
J'aurais
aimé vous poser une autre question. Vous posez le problème du pouvoir des entreprises sur les logiciels et sur la liberté des utilisateurs. Mais que pensez-vous du modèle d'entreprise allemand, autrichien, suisse, où les utilisateurs, les clients, les collectivités locales, les banques, les actionnaires et les salariés ont droit de citer, d'élire le conseil d'administration, par exemple. Au niveau du citoyen. Un peu comme on élit le maire d'une ville.
Je n'ai pas compris. Là. Mais je crois que c'est une autre question.
Oui.
Je ne crois pas que ça ait quelque chose à voir avec le logiciel libre.
Oui. Est-ce qu'on pourrait comparer, voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginez que les utilisateurs de Facebook aient le droit de voter comme les actionnaires pour désigner le PDG.
Ça ne suffit pas. Moi, je veux décider seul. Je veux pouvoir décider seul ce que fasse mon ordinateur.
D'accord.
Cette décision n'a rien à voir avec les autres.
D'accord.
Moi, je dois pouvoir changer le logiciel que j'exécute.
D'accord. Mais le fait que
je n'ai pas le droit de changer le logiciel que vous expliquez.
D'accord, mais...
Et vous n'avez pas de droit. C'est trop fait comme contrôle des utilisateurs. C'est indirect. C'est quoi TDG, c'est quoi?
Est-ce que le CEO ne
participe pas?
D'accord.
Parce que ils seront sous le je ne sais pas le dire en français, sous la vigie des besoins du profit de l'entreprise. Et donc, n'importe quel CEO de Facebook ferait du flicage.
Bah, pour suivre les intérêts peut-être de ses actionnaires, mais peut-être que les intérêts de ses utilisateurs seraient différents.
Mais oui, mais les utilisateurs pourraient, justement pourraient faire des petits changements dans les détails.
Ouais. Sans pouvoir contrôler.
Sans changer le chemin. Donc je ne suis pas.
D'accord.
Je ne pourrai jamais utiliser de Facebook.
Ouais. Merci.
Et tu dois regarder la carte aussi. La carte physique. Comparer. Il faut aussi le nom. Non. Ce n'est pas. Ça, je ne sais pas lire.
Quelqu'un?
Et il faut mettre explicitement le nom.
Vous voulez que je fasse une photo? Pas vraiment. De nous deux, oui.
Oui, oui, avec nous.
Non, avec nous. La carte bancaire.
Non, pas vraiment. Pour Twitter.
Je
vous prenez en photo avec moi, par contre.
Avec le bouton oublié,
avec le bouton.
Voilà. Je vais prendre une ou deux qui sont rester les yeux.
Est-ce que vous voulez changer le genou? Attendez, je vais faire.
Hop. Et maintenant la dédicacé.
Ouais.
Avec un nom.
Julien Marvel.
Comme vous voudriez.
Julien.
D'accord.
Julien Marvel.
C'est trop long, mais je n'y ai.
Ok. Alias Yash. Yash Marvel.
On peut télécharger GNU.
Oui. Ah oui.
Regardez GNU.org/distros.
Et est-ce que c'est une alternative?
Non.
Non.
Mais quand s'il s'agit des faits actuels, oui, c'est une alternative. Et il y a des alternatives privateurs aussi. Mais dans le but, notre but n'est pas d'être une alternative. Notre but est d'éliminer le logiciel privateur.
C'est un business model.
Non. Comme j'ai dit, il y a plusieurs de modèles de négoce pour le logiciel libre. Mais le logiciel libre n'est pas un modèle de négoce. Non. C'est quelque chose de beaucoup plus important qu'un modèle de négoce. C'est la défense des droits de l'homme.
Qu'est-ce que vous voudriez voir libérer en priorité? Un logiciel qui est dans les mains de tous les utilisateurs comme celui de notre téléphone ou un logiciel comme par exemple celui qui contrôle des rames de métro ou un aéroport?
Surtout celui que les gens utilisent.
D'abord celui que les gens utilisent.
Bien sûr, pour donner la liberté aux gens.
Et est-ce que vous pensez quand même qu'il faudrait que les gens puissent avoir un droit de regard sur des logiciels qu'ils utilisent,
avoir un droit
qui puissent regarder les logiciels qu'ils utilisent indirectement, comme par exemple celui qui pilote leur train.
Non, pas indirectement. Non, mais c'est le métro qui utilise ce programme.
D'accord. Donc
c'est donc le métro qui doit avoir le contrôle de ce programme.
D'accord.
Si le programme qui s'utilise pour le contrôle du métro est privateur, c'est une injustice envers le métro.
Mais pas envers nous.
D'accord. Si on utilise le mode avion.
Le quoi?
Le mode avion sur le portable.
Oui, mais en ce cas, pourquoi avoir la fonctionnalité de communication téléphonique? Moi, j'ai l'équivalent ici. Mais c'est quoi? C'est un ThinkPad X60 avec le logiciel remplacé.
Où est-ce qu'on trouve?
Il y a une entreprise qui s'appelle Globlog qui les vend. GLUGLUG. Mais je viens de recevoir la triste nouvelle que très peu maintenant sont disponibles.
Ça pose le problème. Ça pose le problème de savoir comment justement.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un problème. Nous essayons de couvrir la disponibilité des ordinateurs nouveaux libres, mais c'est difficile parce que les fabricants des puces les fabriquent de manière à exiger du logiciel privateur qui est aussi malveillante. Je ne vois pas. C'est quoi? Oui. Ah oui. Et qu'est-ce que je dois faire? Où? Ici?
Oui.
Où vous voudrez?
Sur le genou.
Sur le genou.
Oui.
Et alors les bits de
Est-ce que c'est une interview?
Ah non. En fait, je suis en train de...
Il faut l'étirer. Ici donc,
ouais,
ou ici?
Oui, très bien. S'il vous plaît.
Ah non, j'ai noté Globlog.
Globlog.
C'est indélébile.
Donc quoi?
Ça s'efface pas?
Je n'entends pas.
Ça s'efface pas?
Fâche pas, c'est quoi?
C'est indélébile.
Oui.
Ah, j'ai une question aussi. Que pensez-vous du développement que l'État devrait...
Je n'entends pas les consonnes.
D'accord, je vais parler plus fort. Est-ce que l'État devrait s'engager à développer du logiciel libre? Ne pas le laisser aux entreprises, ne faire que l'État.
Peut-être que je ne comprends pas.
Est-ce que vous pensez que l'État doit développer du logiciel libre et faire une politique?
Je ne comprends pas bien.
Do you think that the legal countries should make that a law and enable that?
What exactly?
Why
exactly?
Open source software.
I don't do open source. I'm not for open source.
Sorry, please after.
Mais c'est ambigu, c'est trop ambigu. Pour voir ce que nous proposons, il y a une page group.org/philosophy/governmentfreesoftware.html qui présente les politiques que nous proposons aux États.
D'accord, je vous pose cette question.
Mais la question est ambiguë.
Oui, je sais très bien. Je vous la pose parce que je fais une thèse sur les logiciels libres et sur Cuba, dans les logiciels libres. Et Cuba, c'est un pays qui propose un développement de logiciels libres, mais en tant que politique nationale.
C'est bon.
Donc c'est pour ça que je vous pose.
Excusez-moi, c'est bon, je ne connais pas les détails.
Vous êtes allé à Cuba pour parler de logiciels libres.
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont...
À ce moment, ils ne faisaient rien, mais peut-être qu'ils ont changé. Ce sera sage, étant vu que l'utilisation de Windows à Cuba le rend vulnérable au pouvoir des États-Unis, aux attaques informatiques. Ce que je disais, je leur ai dit. Mais à Cuba, à cette époque, tout le monde utilisait des copies pas autorisées de Windows en pensant c'est bon parce que nous ne devons pas payer, Microsoft ne peut pas demander à faire un procès ici. Mais ils ne reconnaissaient pas que Microsoft avait du pouvoir sur eux. Maintenant, peut-être, ils le reconnaissent.
Oui. Ils sont
c'est du progrès,
dire,
donc.
Oui.
C'est bon, je suis content. Évidemment, l'État cubain ne respecte pas les droits de l'homme.
Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est pour ça que la question est ambiguë et que je vous demande ce que vous pensez.
Non, Cuba doit rejeter le logiciel privateur. Que Microsoft et le gouvernement des États-Unis aient du pouvoir sur Cuba ne corrige rien. C'est seulement une injustice en plus.
Si on n'utilise pas le système avec flicage, comment ils vous fliquent ?
Quoi ?
Si on enlève tous les flicages. Ils peuvent pas ça devient suspect. Comment ils vous fliquent alors, vous?
Ah, je ne sais pas. Je suppose qu'ils ne fliquent comme ils fliquent à tout le monde.
Et si vous utilisez rien de ce qui est avec...
Je prends des billets d'avion.
Quand je voyage par train, je prends des billets sans mon nom. Mais qu'est-ce qu'ils savent? Les recettes médicales.
En fait, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que quand on donne l'information, quand on se fait
aussi,
fliquer,
ils savent à qui j'envoie des courriers.
Non, mais,
même quand les courriers sont encryptés, ils savent à qui je les envoie.
En fait, c'est
injuste.
Mais on n'est pas suspect si on est fliqué.
Je ne comprends pas.
Quand on est...
Vous dites quelque chose de manière indirecte, je ne comprends pas.
Si on est fliqué,
oui.
On est bien.
Non, c'est injuste. C'est injuste.
Ah non,
la démocratie, le flicage général est incompatible avec la démocratie,
oui.
Donc c'est nocif.
C'est nocif. Mais si on n'est pas fliqué, on devient suspect.
Ce n'est pas mon problème. C'est le devoir de tout le monde de lutter contre le flicage général. Parce qu'il est d'abord parce que nous avons le droit à la vie privée. Nous avons le droit à la communication sans révéler tout à l'État. Donc, cet argument est l'argument de l'intimidation. Donc, il faut ne pas céder à l'intimidation. Il faut lutter pour récupérer la vie privée, pour éliminer le flicage général et aussi pour que la démocratie perdure, parce que sans lanceur d'alerte, il n'y a pas de démocratie. Et avec le flicage général, il est trop dangereux d'être lanceur d'alerte. Donc, on perd la démocratie. Enfin, il faut éliminer le flicage général.
Ça va changer dans quelques années?
Je ne vois pas le futur parce que ça dépend de vous.
Par rapport à
de
Google,
vous?
Que pensez-vous d'une société comme Google?
Google,
dans votre système, est-ce qu'il y a un moteur libre?
Ça ne signifie rien. Le moteur de recherche n'est pas libre ni privateur. Cette question ne se pose pas. C'est incohérent.
Google est un des principaux instruments de flicage.
Oui, mais c'est autre chose, c'est autre question.
Un moteur
c'est
sans
autre... Ah oui, il y en a. Par exemple,
c'est ça la question.
Dr. Galway, hein, il y a d'autres aussi. Mais le point, c'est que la question de libre ou privateur s'applique aux œuvres, pas aux services. Il y a d'autres questions éthiques pour les services. Liberté d'utiliser ta copie. D'un service, tu n'as pas de copie. La liberté de changer ta copie. Tu ne peux pas changer le serveur d'un autre et d'en distribuer des copies. Cette question ne se pose pas. Les quatre libertés essentielles pour qu'une œuvre soit libre ne s'appliquent pas au service. Les questions éthiques pour les services sont d'autres.
Est-ce que vous pensez que les logiciels privatifs vont disparaître dans le futur?
Je n'entends pas.
Est-ce que vous pensez que
les logiciels
privatifs,
privateurs, propriétaires,
c'est politique.
Je n'entends pas.
Non, je disais c'est politique. Normalement, on dit propriétaire, mais effectivement.
Non, mais il faut
changer. Non, mais pas de privateur. Non, mais j'ai compris.
Nous disons propriétaire, mais c'est un nom, ce n'est pas un adjectif. Et il n'explique pas pourquoi c'est injuste. Donc, privateur est meilleur.
Est-ce que vous pensez alors que ces logiciels vont disparaître dans le futur?
Je ne sais pas.
C'est nous le futur.
Je suis pessimiste nature. Donc, je prévois toujours la défaite.
Richard, si je suis engagé chez Google, qu'est-ce que je devrais faire?
Ça dépend de quel travail vous faites.
Site Reliability Engineering.
Je n'entends pas bien.
Site Reliability Engineering.
Je suppose que pour les sites de Google, ce n'est pas bon, étant vu qu'ils ne fonctionnent pas sans exploiter le logiciel privateur en JavaScript. Il n'y a que deux sites de Google. Deux services de Google qui fonctionnent sans JavaScript. L'un est le moteur de recherche, l'autre est Gmail. Mais donc, en tant qu'employé de Google, il faut pressionner pour faire fonctionner les sites sans JavaScript privateur. Par exemple, il y a 5 ou 6 ans, Google Maps fonctionnait bien sans JavaScript. Et puis j'ai vu qu'il fonctionnait bien, sauf que la carte n'apparaissait plus.
Je m'en vais. Merci beaucoup. Et au plaisir.
Happy hacking.
De votre connaissance.
Mais il y a la question de mon remboursement.
On vous attend.
C'est ce que je dois faire.
Après, finissez vos questions, si vous
voulez. Ça devient une question privée, là.
Mais moi aussi, je dois m'en aller. J'ai beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Je ne vois pas le futur, parce que le futur dépend de... Java n'est plus un problème, parce qu'il y a une plateforme libre. Oui, mais il y a une plateforme libre. Donc si un langage a une plateforme libre, pas de problème. Oui, faire du Java est ambigu. Écrire des programmes libres en Java et utiliser des programmes libres en Java, pourquoi pas? Étant vu qu'il y a une plateforme libre qui permet de le faire dans un environnement libre.
Laisser les réseaux, c'est quand même...
Je n'entends pas.
Laisser réseau, le network effect. Vous parliez de ça tout à l'heure, ça c'est le principal obstacle. Aujourd'hui, ben, par exemple, si j'ai quelqu'un un client qui me dit j'utilise Skype, on va faire une conférence téléphonique avec Skype, qu'est-ce que je réponds? Substituabilité d'un service par un autre. Il y a d'autres...
On peut proposer l'utilisation de l'inform, par exemple.
L'inform. Oui,
l'inform.
D'accord, c'est bien ça.
Il y a ou du téléphone. Les appels de longue distance ne sont pas très chers aujourd'hui.
Oui, mais là, aujourd'hui, c'est gratuit. Par notre procédé, c'est gratuit. On peut en plus avoir la caméra. Il n'y a pas de
chute. Je refuse absolument d'utiliser Skype.
C'est horrible.
Absolument.
Mais il y a Jitsi.
Je n'entends pas.
Il y a Jitsi qui fonctionne.
Oui, c'est libre aussi.
C'est pareil que Skype, mais c'est gratuit.
Dans quoi?
Jitsi.
Par rapport à Android. Quelle alternative?
Il y a Replicant.
Replicant?
C'est une version modifiée libre d'Android. Mais le problème, c'est qu'il faut regarder notre page. glue.org/philosophy/androidandusersfreedom.html.
Mode cyanogène.
Non, ce n'est pas libre. Regardez la page.
Et pourquoi Gmail et pourquoi le moteur n'ont pas JavaScript encore? Qu'est-ce qui empêche Google?
Google le fait comme ça. Je ne sais pas pourquoi.
Voilà. Et les anti-spyware, les Bitdefender.
Je n'entends pas.
Les Bitdefender, les antivirus.
Je ne connais pas. Mais beaucoup de programmes antivirus sont privateurs. Donc je les rejette. Mais il y a beaucoup moins de virus chez GNU que chez Windows.
Je peux télécharger GNU.
Quelle distribution Linux vous recommandez?
Il n'y a pas de distribution Linux. C'est injuste.
C'est infernal
de dire. Linux est le noyau, et seulement le noyau. Linux ne fonctionne pas seul. Les distributions sont des distributions de GNU et Linux. Moi, j'utilise Freescale, mais il faut regarder notre liste de distributions libres.
Et moi, je ne sais pas, Jen.
Ce n'est pas libre. Regardez gnu.org/distros pour toutes les informations à ce sujet. Oui,
si je peux faire. Merci beaucoup, monsieur.
Okay.
Au revoir.